Bonjour, chers auditeurs. À l'aube de cette nouvelle année, nous retrouvons l'association Clair d'Étoile pour notre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, c'est Pascal qui va d'abord nous parler du ciel de janvier. Bonjour Pascal.
Bonjour Sylviane. Après un mois de décembre très riche en phénomènes astronomiques, en particulier le rapprochement Jupiter-Saturne, dont nous avons pu suivre l'évolution tout au long de ce mois, janvier risque de paraître un peu fade. Du dimanche 10 au mardi 12, moins d'une heure après le coucher du soleil, horizon ouest-sud-ouest, Mercure croise Jupiter. La plus petite planète du système solaire rencontre la plus grosse. Mercure, moins de 5000 km de diamètre, Jupiter, plus de 140 000. Saturne, légèrement en dessous, sera difficile à voir sans instrument. Le lundi 11, une heure avant le lever du soleil, horizon est-sud-est, un fin croissant lunaire est tourné vers la très brillante Vénus. Le jeudi 14, moins d'une heure après le coucher du soleil, horizon ouest-sud-ouest, on peut essayer de saluer Jupiter avant sa disparition pour quelques semaines derrière le soleil. Un très fin croissant de lune facilitera le repérage. Le mercredi 20 et le jeudi 21, plus d'une heure et demie après le coucher du soleil, le premier quartier de lune brille à côté de Mars, à plus de 50 degrés au-dessus de l'horizon sud. Jusqu'au 12 janvier, on pourra observer la première pluie d'étoiles filantes de l'année, les Quadrantides. Elles tirent leur nom d'une ancienne constellation, le Quadrant, qui se situait entre le Bouvier et la Grande Ourse.
Il y en aura quand même des choses à observer. Passons maintenant au plat de résistance. Quel va être le focus du jour?
Je vais te laisser le deviner. Est-ce que le nom de Rosetta te rappelle quelque chose?
Un vague souvenir, ça me semble bien loin.
Je vais te rafraîchir la mémoire. En mars 2004, l'Agence spatiale européenne a lancé une sonde vers un objet lointain. En novembre 2014, après s'être mise en orbite autour de cet objet, la sonde a largué un petit robot qui s'est posé dessus, avec quelques difficultés à l'atterrissage. Le nom de ce robot, Philae.
Ah, cette fois je me souviens. Philae s'est posé sur une comète dont je n'ai pas réussi à retenir le nom.
Son nom complet, c'est vrai, n'est pas simple, c'est Churyumov-Gerasimenko, abrégé en Tchouri.
Donc, le sujet du jour, ce sera les comètes. Mais une comète, qu'est-ce que c'est exactement?
D'abord, un peu d'étymologie. Le mot comète vient du grec ancien, cométès aster, qui signifie astre chevelu. C'est un petit astre ressemblant à un astéroïde, dont les dimensions sont de l'ordre d'une dizaine de kilomètres. Mais, à la différence des astéroïdes, elle est composée en grande partie de glace. On a pu dire que c'était une boule de neige sale. La forme d'une comète, les photos de Rosetta l'ont bien montré, est loin d'être sphérique. Une comète se compose essentiellement de trois parties, le noyau, la chevelure et les queues. Le noyau et la chevelure constituent la tête de la comète. Le noyau est un corps solide constitué pour environ moitié de diverses glaces, essentiellement de l'eau, et aussi de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, méthane, éthane, acétylène, et moitié de matière météoritique agglomérée. Ces glaces se subliment à l'approche du Soleil, c'est-à-dire qu'elles passent directement de l'état gaz solide à l'état gazeux et donnent naissance à la chevelure puis aux queues. La chevelure forme un halo à peu près sphérique entourant le noyau et elle est constituée de particules neutres de gaz et de poussière issues de ce noyau. Ces particules sont libérées sous forme de jets lorsque la comète se rapproche du Soleil, provoquant la sublimation des glaces du noyau. Son diamètre est généralement compris entre 50 000 et 250 000 km.
Donc, ce qu'on voit d'une comète, c'est sa chevelure.
Et aussi ses queues. Une comète en possède deux. Une queue, constituée d'un plasma, rectiligne et se maintenant à l'opposé du Soleil, comme une ombre, poussée à haute vitesse de l'ordre de 500 km/s par le vent solaire. Une queue plus large, constituée de poussière poussée par la pression de radiation solaire, et incurvé dans le plan de l'orbite par la gravité du Soleil. A noter que ces queues sont toujours orientées dans la direction opposée au Soleil.
Mais les comètes, on ne les voit que pendant des périodes très brèves. Alors, d'où viennent-elles et ensuite, où vont-elles?
Avant de répondre à ces questions, il faut savoir quelle est l'origine. Le système solaire s'est formé à partir de la contraction d'un nuage interstellaire qui a donné le Soleil, les planètes et d'autres résidus, dont les comètes.
Mais est-ce qu'il y en a partout dans le système solaire ou bien est-ce qu'elles sont stockées dans des sortes de réservoirs?
Suite à l'action gravitationnelle des planètes les plus importantes du système solaire, comme Jupiter ou Saturne, ces petits astres se sont trouvés confinés en deux endroits, le nuage de Oort et la ceinture de Kuiper.
Et ces deux endroits, ils se trouvent où?
La ceinture de Kuiper se situe entre 30 et 55 unités astronomiques du Soleil, et le nuage de Oort, beaucoup plus loin, entre 20 000 et 30 000 unités astronomiques. Une unité astronomique étant la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres.
D'accord, donc ces comètes sont très éloignées. Pourquoi est-ce que certaines viennent nous rendre visite?
Il faut se rappeler que dans l'univers, tout est en mouvement. Au sein de ces endroits, il y a forcément des collisions qui modifient les trajectoires. L'attraction gravitationnelle des planètes, principalement celle de Jupiter et aussi celle du Soleil, entraîne la comète sur une orbite autour du Soleil et l'amène à se rapprocher de la Terre et à devenir plus ou moins visible.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand la comète approche du Soleil?
Trois situations possibles. La comète peut être capturée par l'attraction gravitationnelle du Soleil et s'écraser sur lui. Elle peut aussi se briser en plusieurs morceaux. Enfin, elle peut se mettre en orbite autour du Soleil avec une orbite plus ou moins elliptique. Chaque passage à proximité du Soleil lui arrache alors un peu de matière.
Donc, à plus ou moins long terme, elle va revenir à proximité du Soleil?
C'est vrai. Un très bon exemple est la fameuse comète de Halley. En 1705, Edmond Halley publia un livre avançant que les comètes qui étaient apparues dans le ciel en 1531, 1607 et 1682 étaient en fait une seule et même comète. Expliquant que la comète voyage sur une orbite elliptique et prend 76 ans pour faire une révolution complète autour du Soleil, Halley prédit qu'elle reviendrait en 1758. La comète parut en décembre 1758, avec un passage au plus près du Soleil le 13 mars 1759. Malheureusement, Halley n'était plus là pour en retirer les lauriers. Le plus récent passage de la comète a eu lieu en février 1986, et le prochain est prévu pour juillet 2061.
Tu as dit qu'à proximité du Soleil, une comète pouvait se briser, ou pour le moins qu'elle perdait de la matière. Et que deviennent alors les résidus?
L'ensemble de la comète et des résidus va continuer à orbiter autour du Soleil en laissant derrière elle une traînée de poussière de plus en plus longue. C'est cette traînée de poussière qui, lorsqu'elle croise l'orbite terrestre, va donner naissance à ce qu'on appelle les étoiles filantes. Par exemple, la comète Swift-Tuttle est à l'origine des Perséides que nous pouvons admirer chaque année début août.
Et est-ce qu'il y a d'autres comètes devenues célèbres?
Shoemaker-Levy est une comète qui s'est disloquée lors de son approche de la planète Jupiter. Plusieurs de ses morceaux sont rentrés en collision avec elle entre le 16 et le 22 juillet 1994. Ces collisions ont pu être observées en direct par de nombreux astronomes professionnels ou amateurs. Albop, elle, a été visible à l'œil nu pendant plusieurs mois, et en passant au plus près du Soleil le 1er avril 1997, la comète a donné un spectacle extraordinaire. Elle était plus brillante que toute étoile dans le ciel, sauf Sirius, et sa queue de poussière s'étendait sur 40 à 45 degrés d'arc. La comète était visible bien avant que le ciel ne soit complètement obscur, et toute la nuit dans l'hémisphère nord. Elle fut même visible de Paris, toujours à l'œil nu, pendant plusieurs semaines, malgré la pollution de l'atmosphère et son éclairage abondant. Et bien sûr, Tchoury, dont il a été question au début, et qui a reçu la visite de Philae en novembre 2014. Philae, malgré ses problèmes à l'atterrissage, a pu transmettre des photos extraordinaires sur la comète, dont la forme rappelait celle d'un canard.
Finalement, les comètes, lorsqu'elles s'approchent du Soleil, sont assez faciles à observer à l'œil nu. Est-ce qu'on a des traces d'observation dans le passé?
Dans l'Antiquité, les premières traces écrites d'observation de comètes figurent dans les annales chinoises datant de plus de 1000 ans avant notre ère. À l'époque, ces chroniques sont gravées sur des carapaces de tortues ou des omoplates d'animaux. Le plus ancien passage attesté de la comète de Halley remonte temps allant 240 avant notre ère est consigné dans ses archives chinoises, mais aussi à la même époque sur des tablettes chaldéennes en écriture cunéiforme. On peut aussi évoquer la tapisserie de Bayeux, qui illustre l'histoire de la conquête de l'Angleterre en 1066 par Guillaume, duc de Normandie. On y voit nettement une comète qui sera identifiée plus tard comme étant celle de Halley. Malgré les interprétations de savants et de philosophes, la croyance populaire en a fait des signes annonciateurs, le plus souvent de mauvais augure. Les astrologues au Moyen-Âge associent à des morts illustres, comme Comète de 451 pour la mort d'Attila, de 632 pour Mahomet, de 1223 pour Philippe Auguste. Aujourd'hui, l'étude des comètes permet de nous éclairer sur l'origine du système solaire et plus particulièrement de vérifier s'ils peuvent être en partie responsables de l'abondance de l'eau sur notre planète, voire même de l'apparition de la vie sur Terre. Pour cela, l'Agence spatiale européenne a prévu de lancer en 2028 la sonde Comet Interceptor, qui sera dirigée vers une comète n'ayant jamais survolé le Soleil. En effet, jusqu'à maintenant, les comètes étudiées ont toutes effectué plusieurs passages près du Soleil, ce qui a transformé leur structure et leur composition. Mais d'ici là, espérons que nous aurons l'occasion d'admirer le passage d'autres comètes.
Merci Pascal. Claire d'Étoiles vous donne rendez-vous sur Fréquence 7 le mois prochain.